voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéré.
Bonjour et bienvenue dans cette émission consacrée à un monument du cinéma français disparu le 12 mai dernier à l'âge de 94 ans. En 60 ans de carrière, 60 ans et plus de 200 films, Michel Piccoli n'a cessé de se réinventer au point d'incarner, lui tout seul, ou presque, le cinéma français. Buñuel disait de lui « J'aime son humour, sa générosité secrète, son grain de folie et le respect qu'il ne me témoigne jamais. » Godard, le Godard du mépris, on pourrait aussi le citer. J'ai pris Piccoli parce que j'avais besoin d'un très bon acteur et de dire à quel point Piccoli était remarquable avec son jeu tout en détail. Sans oublier le grand Jean-Pierre Melville qui vantait sa nonchalance admirable. Voilà un homme qui a tout joué, les patrons, les ouvriers, les bourgeois suicidaires, les flics déviants, les pervers, les cassés de la vie, les pères incestueux, les papes, les cannibales. Le Guardian, le quotidien britannique Le Guardian, tentant de décrire avec difficulté cet acteur unique, l'a comparé à Jean Gabin et même à Vincent Cassel, sans doute pour son inquiétante et si séduisante étrangeté. Michel Piccoli pouvait tout jouer, l'amitié et la folie, les abîmes de l'égarement et le machiavélisme, avec un sourire qui pouvait en une fraction de seconde exploser en orage fulgurant comme ceux de son frère en cinéma Claude Sauté. Alors avec nous aujourd'hui pour revisiter cette trajectoire exceptionnelle, Anne-Sophie Mercier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur d'une biographie remarquablement fouillée de Michel Piccoli. Et vous, Serge Toubiana, en tant que directeur de la Cinémathèque française, vous avez, ex-directeur, devrais-je dire, vous êtes désormais, vous présidez aux destinées d'Unifrance. Mais à l'époque, donc, vous avez été l'instigateur de la rétrospective qui lui a été consacrée en 2013. Et surtout, vous avez été un proche et un ami de Michel Piccoli. Bonjour.
Bonjour. Bonjour Elisabeth.
Je vais passer à la postérité, mais je ne suis pas tout seul. Il y aura le personnage que je joue, il y aura l'auteur qui l'a écrit, il y aura le chef d'orchestre, le metteur en scène. Je pourrais très bien, si j'étais très soucieux de moi-même ou nombrilique, je pourrais me faire une psychanalyse à travers tous les personnages que j'ai joués, savoir si toutes ces brutalités ou ces choses bizarres que j'ai pu jouer, si ça a été pour moi un apaisement. Si ça a été inconsciemment une auto-psychanalyse.
Michel Piccoli sur RFI en 1991. Alors il dit « Je vais passer à la postérité, mais je ne serai pas tout seul ». Serge Toubiana, il est d'une modestie incroyable, parce qu'à l'époque, il a quand même joué, et je n'en cite que quelques-uns, Godard, Buñuel, Varda, Clouseau, Hitchcock, Chabrol. Et il parle avec la modestie d'un débutant.
Les grands acteurs, et Michel Piccoli est un immense acteur, je pense aussi à Mastroianni qui est très proche de lui, les immenses acteurs que nous avons eu la chance de côtoyer sur l'écran, c'est des grands humbles. L'humilité est une caractéristique fondamentale. Si vous voulez. Il y a une humilité de base qui fonde le génie de Piccoli et celui de Mastroianni. Je les compare parce que pour moi, c'est les deux plus grands acteurs qu'on ait eu en Europe. L'humilité, elle est fondamentale. Quoi. Il faut faire preuve d'une humilité absolue pour accueillir ces personnages incroyables. Extravagant, c'est le mot qu'il employait, Michel, souvent. C'est extravagant, non ? C'est extravagant. Parce que Michel posait que des questions. Il avait un regard sur le monde jusque tard. Moi, je l'ai encore vu il y a 4-5 ans. Il posait des questions. Ouais. Pour lui, le monde était une succession de questions, ouais. D'interrogations, de mystères, de secrets. Et lui était là, j'allais dire, à la fois un peu enfant et un peu hébété, à poser des questions en se demandant ce qu'il fait là, comment il pourrait jouer son rôle, modifier le cours des choses. Et c'est ça qui faisait sa grandeur. Moi, j'adorais sa compagnie parce que jamais Piccoli ne se vantait de quoi que ce soit. C'était étranger à lui-même. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'il a si bien s'enrôler dans le cinéma et au théâtre, parce que tout était possible pour lui. Il avait une disponibilité et une curiosité vis-à-vis des propositions, des rôles, des situations, des mondes qu'on lui proposait, qui était absolue. Quoi. Et c'est ça sa grandeur. Sa grandeur se fonde sur l'humilité.
Et vous, vous vous souvenez, Serge Tubiana, de votre première, la toute première rencontre avec Michel Piccoli ?
Oui, il y a très longtemps. Je vais vous raconter une anecdote, peut-être que vous ne la connaissez pas. Michel Piccoli, quand j'ai pris des cahiers avec Danet en 74, les cahiers du cinéma, on s'est occupé des cahiers qui étaient dans une très mauvaise posture. Après les années idéologiques, maoïstes, 1974, je suis avec Danet, je suis tout jeune, il est plus âgé, il est plus mature, c'est mon mentor, Serge Danet. Je lui dis, mais tu sais qui sont actionnaires des cahiers du cinéma ? Il me dit, ah, oui, regardons. Et on voit la liste. François Truffaut, Michel Piccoli, Costa Gavras, Pierre Brunberger, Claude Berry, Nicole Stéphane, et j'en oublie. Et on dit, mais voilà, ces gens-là, on ne les connaît pas, ils sont nos patrons, si vous voulez. On s'est mis à prendre des rendez-vous avec Piccoli, je me souviens, il habitait avenue MacMahon, donc je lui fais une lettre, cher monsieur Piccoli, vous êtes associé, membre, enfin actionnaire des Cahiers du cinéma, on aimerait vous rencontrer. Donc si vous voulez, on a fait une première rencontre avec Piccoli qui était complètement incongru parce qu'il ne nous connaissait pas et on s'est rendu compte qu'il était très attaché au cahier du cinéma alors qu'il était une immense vedette du cinéma. On a été voir François Truffaut, on a été voir Pierre Brunberger, etc., etc., Claude Berry, etc. On a fait le tour des popotes, on avait un peu honte parce qu'on sortait d'une période horrible des cahiers du cinéma et Piccoli nous a accueillis avec une très grande camaraderie, voilà le mot, voilà. Et de là est née une relation qui peu à peu s'est renforcée puisque ce qui a été très important dans mon parcours, c'est que en 1993, 14, 15, je me suis occupé du centenaire du cinéma avec Alain Combet sur une proposition de Jack Lang, alors ministre de la Culture, et c'est Piccoli qui était notre président. Donc, souvent, on a une relation presque quotidienne avec Piccoli comme président d'une association et on a eu des moments très cocasses, des grandes colères aussi. Ça, il faudra qu'on parle des grandes colères de Piccoli parce que c'est un moment extravagant dans la relation qu'on peut avoir avec lui parce qu'il pouvait prendre des colères, mais comme je n'en ai jamais subi, ni tout d'un coup, voilà, une éruption volcanique. Et de là est née une amitié, voilà, une amitié qui a couru jusque tout au long des 30 dernières années, si vous voulez.
Alors de Michel Piccoli, on va garder des dizaines d'images, pour ne pas dire des centaines. Hein. Le bourgeois suicidaire de la grande bouffe, dans son pull rose à col roulé. L'architecte des choses de la vie qui voit défiler son existence hein, alors que son Alfa Romeo quitte la route. Le prolétaire en rupture de banc de Thème Rock. Max Pélissier, bien sûr, hein, le commissaire qui brise la vie de Romy Schneider dans Max et les Ferrailleurs. 1000 facettes possibles de cet acteur protéiforme. Mais pour l'heure, Anne-Sophie, Serge, je vous emmène sous le soleil, exactement, sous le soleil de Capri. Bien sûr, Michel Piccoli a 35 ans. Godard l'a convoqué à son habitude 3 semaines seulement avant le début du tournage pour une aventure avec Brigitte Bardot, Jack Palance, Fritz Lang. Et voilà donc qu'en un film, un seul, Piccoli bascule dans la légende.
Pourquoi est-ce que tu ne veux pas qu'on aille à Capri ?
Parce que tu es un âne. Tu fais peur, Paul. D'ailleurs, c'est pas la première fois.
Mais tu n'avais qu'à me répondre. Pourquoi est-ce que tu ne me réponds pas à lui rester les bras en bas? Tu as l'air. Pourquoi est-ce que je me suis marié avec une dactylo de 28 ans?
C'est vrai. Je te demande pardon.
Moi aussi.
À quelque chose. Ça t'étonne ?
Non, quoi ?
Une idée.
Allez, accompagne-moi. Alors quoi, je vais pas y aller seul. C'est vraiment drôle, je trouve, Camille, depuis qu'on a rencontré ce type.
Non, je ne suis pas drôle.
Et
Je me demande pourquoi tu nous dis ça.
Je dis ça comme ça. Ce matin, tout allait bien. Tout à coup, maintenant, on se dispute pour rien. Qu'est-ce qui se passe, là, tout de suite?
J'ai envie de m'amuser. Rien,
voilà, le face-à-face entre une Bardot perruquée de noir et un Piccoli drapé de blanc, hein, tel un sénateur romain, une gifle en rouge et blanc avec ce son si particulier, hein, puisque la scène est tournée comme l'émettant Godard dans une salle de bain. Alors évidemment, c'est un extrait du Mépris en 63. Hein, donc je rappelle rapidement l'histoire. Piccoli, c'est Paul Javal, un écrivain marié à une belle jeune femme, Camille, jouée bien évidemment par Bardot. Et un producteur américain, Procoche, Jack Palance, va le charger de remanier dans un sens plus commercial une version de l'Odyssée pour le cinéma. Procoche, bien évidemment, attiré par Camille, la drague ouvertement, ce qui ne révolte pas Paul et évidemment suscite le mépris de sa femme Brigitte Bardot. Alors Serge Soubiana, tout à l'heure, on parlait des colères exemplaires de Michel Piccoli. Alors là, c'est exactement ça, c'est du pur Piccoli, c'est-à-dire on a cette froide, cette indifférence, et puis tout à coup la colère qui monte et la ouais. Gifle qui part.
Moi, ce qui me frappe en réécoutant l'extrait que vous avez choisi, c'est la voix de Piccoli, parce que la voix est fondamentale chez l'acteur. Et là, il y a une voix qu'on a grandi avec la voix de Piccoli. Cette voix à la fois profonde, c'est une voix d'homme, quoi. Voilà, et je pense que si on a grandi avec Piccoli depuis le Mépris, tous les cinéphiles et tout le public d'ailleurs. C'est qu'on s'est identifié d'une certaine manière à un certain type de morphologie d'un mâle français, mâle au sens M-A, accent circonflexe, L-E. Piccoli, c'est un mâle, quoi. Voilà. Et dans ce mâle, il y a à la fois l'élégance, la voix, qui est très, très, voilà, qui va loin, et puis il y a un petit fond de lâcheté et de veulerie. Vous voyez ce que je veux dire dans le personnage de Paul Javal dont vous parlez? Il est lâche parce que quand il propose à sa sublime compagne de monter dans la voiture du producteur, la décapotable, c'est là que la rupture se fait. Il a fait un geste que Camille ne supporte pas. Camille l'aime, Camille est pure, et là, elle a eu le sentiment qu'il la mettait dans les bras d'un rival potentiel. Et moi, je trouve que là, c'est dans un détail infime que le film se joue et que la relation, le mépris, le titre du roman de Moravia, se joue. Et Piccoli, je pense qu'il a été choisi par Godard un peu comme un acteur de série B, si vous voulez. Parce que Piccoli, en 63, n'est pas une grande vedette. Il est né en 25, donc il a, oui, comme vous avez dit, je pense, pas loin de 40. Non, il a, oui, pas loin de 40 ans. Et vous voyez, et on va le découvrir comme un acteur sublime, vous voyez. Mais on va le découvrir comme une espèce de, dans une relation presque anthropologique avec ce qu'est pour un spectateur français qui aime les films d'auteur, de Godard ou d'autres. Qu'est-ce que c'est qu'un mâle français, un acteur qui a, voilà, qui est capable de tout jouer avec son chapeau à la Dean Martin, etc. Je crois que Godard a vraiment campé un personnage de cinéma. C'est fondamental pour la carrière de Piccoli, voilà.
Anne-Sophie Mercier, Anne-Sophie Mercier, dans votre livre, vous écrivez que effectivement Godard l'a repéré en 58, hein, Michel Piccoli, dans un petit polar, et justement il avait écrit dans les cahiers du cinéma que pour une fois les flics français étaient représentés comme des gens normaux. Toutes les scènes, hein, je le cite, toutes les scènes avec l'inspecteur admirable Michel Piccoli sont d'une justesse de ton qui tranche sur la production courante.
Oui, je crois que ce film s'érafle sur la ville de Pierre Chanal. Et on voit très bien dans les documents préparatoires du Mépris à quel point il a quand même travaillé le personnage qu'il offre à Michel Piccoli. Je cite Godard, un homme d'environ 35 ans, d'aspect un peu antipathique, dans le genre gangster de film, mais d'une antipathie sympathique, si l'on peut dire, secrètement attiré que l'on est par son côté renfermé, maussade, souvent provocateur, qui cache une âme tourmentée, rêveuse, qui se cherche elle-même sans vouloir l'avouer.
Serge Toubiana, dans le très beau texte que vous lui aviez consacré, hein, à l'occasion de l'hommage à la Cinémathèque française, vous écriviez « Michel Piccoli garde en lui une capacité d'étonnement presque enfantine qui force l'admiration ». Et effectivement, ce goût de la liberté revient tout le temps, y compris sans doute dans sa carrière, parce que là, on parle évidemment d'un film emblématique de la nouvelle vague, Le Mépris. Mais il a, lui qui a tourné d'un côté pour Godard, Chabrol, Demy, René, Doyon, Bellocchio, hein, on s'épuiserait à les citer tous, et des projets parfois très, très risqués, Serge Toubiana, en face, il ne cesse de tourner aussi pour un cinéma beaucoup plus commercial. Yves Boisset, Michel Deville, Francis Giraud, Pierre Granier de Fer, hein, avec qui il tourne l'extraordinaire Une étrange affaire. Toute sa vie, il va alterner entre, pour le dire un peu crûment, un cinéma d'auteur exigeant et puis en face des choses beaucoup plus commerciales, comme Le Sucre aussi de Ruffio.
Oui, il est un problème. Oui, mais dans les films commerciaux dont vous parlez, je pense à Yves Boisset et puis il y en a beaucoup d'autres. Hier, j'ai revu Une étrange affaire. Il est sublime, de souveraineté cruelle, vous voyez. Parce que je crois que pour lui, il ne faisait pas la différence. Hein. Anne-Sophie va peut-être le confirmer. Comme sa carrière est disons, tardive, ça n'a jamais été un jeune premier. Vous voyez, il n'a jamais commencé comme Alain Delon à 20 ans, repéré par Clément ou Visconti ou Lozé, etc. Donc, Piccoli, c'est une carrière qui s'est faite au théâtre. Il a fait des seconds rôles pendant très longtemps. Donc, si vous voulez, il prenait tout, quoi. Il acceptait tout. Et je pense que les grands acteurs sont ceux qui acceptent tout, y compris dans des mauvais films ou des films qui ne sont pas glorieux du point de vue de la carrière de l'auteur. Mais il accepte parce que si ça lui permet d'exprimer un personnage qu'il ne connaît pas, si ça lui permet d'explorer une zone de son jeu ou d'un personnage possible, il prend tout. Mais comme il a eu la chance de rencontrer Buñuel et d'avoir un pacte de fidélité avec Buñuel, comme avec d'autres d'ailleurs, Ferreri, beaucoup de films. Si vous voulez, il était en confiance, Piccoli. Et peut-être que le fait de jouer dans tant de films qu'on appelle commerciaux, c'était aussi une façon de se, non seulement de gagner sa vie, mais de se rassurer aussi et d'expérimenter des zones d'ombre de son personnage et de son état d'acteur qui, au fond, l'excitait, lui plaisait, vous voyez. Il ne cherchait pas les chefs-d'œuvre, et parce que ça ne se décrète pas à l'avance, tout simplement. Et je crois qu'il a tout accepté par plaisir, par boulimie, par curiosité, par plaisir de jouer, tout simplement. Tout jouer ce qui est possible de jouer. Ouais. Je crois que c'est... Il ne faisait pas la hiérarchie.
Et vous venez de le dire, Serge Toubiana, il avait aussi en lui des réserves de noirceur incroyables, au point que dans certains films, l'ombre du Marquis de Sade semble planer sur lui, surtout dans celui-ci.
Bonjour Séverine, je suis désolé de vous déranger.
Vous vouliez voir Pierre ?
Un moment, oui. C'est une jolie robe. On dirait une collégienne précoce.
Qu'est-ce que vous voulez dire à Pierre ?
Tout ce que je sais de vous.
Quoi ?
Calmez-vous. Mais vous savez, maintenant, il se voit paralysé, entièrement à votre charge. Il vous donne beaucoup de mal, il en a honte parce qu'il vous croit pur. C'est pour ça que je veux lui parler, tout lui dire. Il lui fera sûrement de la peine, mais je crois que c'est un service à lui rendre. Qui pourrait dire après ça que je suis un homme cruel ? Conduisez-moi, s'il vous plaît.
Il est là.
Vous voulez assister à notre conversation ? Bonjour, Pierre.
Un ami très inquiétant, ce monsieur Husson, qui au début du film, d'ailleurs, fait découvrir à Catherine Deneuve, blonde, on ne peut plus BCBG, l'existence des maisons closes. Alors bien sûr, hein, c'est Belle de jour de Luis Buñuel, le face-à-face en 66, entre Piccoli et Deneuve. Et le sourire dans la voix de Piccoli est absolument extraordinaire. Il disait, je suis inquiétant, car j'aime l'inquiétude des autres. Anne-Sophie Mercier, c'est joli, non ?
Ah oui, c'est joli. C'est dans Belle de jour, Michel Piccoli s'active à détruire une femme qu'il désire, qui est Catherine Deneuve, et ce n'est pas la seule fois dans sa carrière qu'il va jouer ce type de rôle. Il fait la même chose dans un film de Claude Sautet qui est merveilleux, qui s'appelle Max et les ferrailleurs, dans lequel il joue un policier fou amoureux d'une prostituée dont il détruit méthodiquement la vie avant de détruire sa propre vie d'ailleurs. Ça, j'ai vu ça à plusieurs reprises, ces personnages-là dans la carrière de Michel Piccoli. Je trouve ça assez passionnant.
Et Piccoli, justement, Serge Toubiana, vous le disiez tout à l'heure, hein, il y a une sorte de symbiose qui s'opère entre Buñuel et Piccoli. Ils vont faire 6 films ensemble, hein, dont des chefs-d'œuvre. Au moment d'ailleurs de Belle de jour, ils en ont déjà tourné 2 ensemble, La mort en ce jardin et le journal d'une femme de chambre. À votre avis, Buñuel, il voit quoi chez Michel Piccoli ? Parce qu'il va adorer, hein, le caster, comme on dit aujourd'hui, dans ses rôles de bourgeois taraudés par leur sexualité.
Oui, oui, dans Belle de jour, c'est une espèce de Don Juan, de comment dire. Ce qui est frappant, c'est l'autorité de la voix. Vous voyez, quand Piccoli parle à Deneuve, il y a l'autorité de la voix. Donc, il est supérieur. Il se, Il se met dans une posture de supériorité par l'autorité. Comme dans le film de Granier de Fer dont je parlais, que j'ai revu hier avec délectation, Une étrange affaire, c'est il a l'autorité. Et les autres acteurs sont presque inféodés à lui. Il joue la souveraineté, mais cette souveraineté, elle est fêlée. Il y a une fêlure, bien sûr. Il y a une fêlure. C'est un Don Juan qui se regarde et qui sait que tout ça n'est que vanité. Donc, vous voyez, donc il y a cette dimension que je trouve très émouvante dans Belle de jour, comme dans beaucoup de films chez Sauté ou chez dans Dillinger est mort, voilà, chef-d'œuvre. Piccoli a tourné pratiquement en même temps que Les choses de la vie. Il y avait les deux aspects. Et quand vous disiez au tout début de l'émission que quand il parlait de la pudeur, mais oui, c'est minu, il se met nu, il est nu, même, on le voit dans Une étrange affaire, il est nu, il se rase, il fait venir Gérard Lanvin, qui est un jeune totalement fasciné par son patron. Il n'a pas peur de la nudité, Piccoli, parce qu'il y a une espèce d'enveloppe physique tellement impressionnante. C'est vraiment le mal dans toute sa force, mais aussi dans ses failles. C'est là qu'il est bouleversant, parce qu'on voit bien que tout ça, il n'y croit pas. Il n'y croit plus lui-même. Le pouvoir, le grand bourgeois souverain, il n'y croit pas lui-même. Et Sauté a très bien compris ça. Il a vu la faille. Il a vu l'homme, la crise de l'homme, du mal français dans toute sa splendeur. Et c'est pour ça que Piccoli, on s'est identifié à lui. On s'est identifié au grand acteur, à sa voix, à cette espèce de donjuanisme dont il joue avec perfection, comme dans La Chamade, 68, le film d'Alain Cavalier, où il a encore Catherine Deneuve comme maîtresse. C'est un très beau film. Catherine Deneuve y est sublime de beauté, de talent, et Piccoli est son Pygmalion, si vous voulez. C'est là qu'il est génial, Piccoli. Il peut tout incarner avec intelligence, avec froideur, avec souveraineté, avec cette voix sublime, et en même temps, il n'est pas dupe, il sait que tout ça n'est que la vanité d'un homme fragile, fêlé. C'est là qu'il est grand, voilà.
Hey. Eh bien?
Oh oui. Je voudrais habiter dans une baignoire. Ah, je savais bien.
Vous savez quoi?
On fait pas l'amour, mais il y a autre chose. Tu es un maniaque?
Non, je suis photographe. Commande-toi. Là, voilà, comme ça. Concédé. Vas-y, lâche-toi. Fais comme si
j'étais malade. Je n'aime pas ça, je te préviens.
C'est seulement la tête. C'est ce que je veux. Souris plus. Non, souris plus. Parle-moi.
C'est pas facile. Si j'avais pris 100 000 sur la table, tu m'aurais dit quoi?
J'ai qu'à essayer. Attends. Assieds-toi sur le bord.
C'est pas mal.
Baisse les yeux. Ouvre. Vraiment de beaux yeux. Tout à l'eau. Dis quelque chose, n'importe quoi.
C'est agréable d'être riche.
Tu connais quelqu'un qui est le contraire, tu me le présentes.
Un homme, une femme et une baignoire, secret et trahison. Bien sûr, c'est un extrait de Max et les Ferrailleurs de Claude Sauté en 71. Jusqu'où est-on prêt à bafouer ses principes, ses valeurs par amour? C'est le sujet du film, bien sûr. Où un grand flic paranoïaque, Michel Piccoli, bien sûr, on vient d'entendre sa voix, se fait passer pour un banquier auprès de Lily, sublime prostituée jouée par Romy Schneider. Alors, Serge Touliana, Sauté, vous le disiez, hein, c'est un peu son double de cinéma. Il va faire 5 films magnifiques avec lui, hein, 5 films d'anthologie. Et ils ont des traits de personnalité communs, entre autres. Ils sont très colériques tous les deux. Et il paraît que Piccoli adorait imiter les colères de Sauté. C'est vrai?
Oui, il paraît. Oui. Je l'ai vu sur des documents de tournage. Et puis Piccoli imitait très bien, mais lui-même se mettait en colère. Ça m'est arrivé, il s'est mis en colère une fois contre moi et Alain Crombeck en 93 ou 14, je me souviens. On ne comprenait pas pourquoi. Et donc la colère a duré. C'était vraiment comme un coup de tonnerre, vraiment. Et puis il s'est mis à pleuvoir d'ailleurs. Et puis tout d'un coup, il s'est calmé. Et j'ai compris avec Alain Crombeck, on s'est dit, mais pourquoi il nous engueule alors qu'on n'a rien fait de mal? Et j'ai compris un truc très fort sur l'acteur. sur les grands acteurs. C'est qu'en fait, il était le président de l'association Premier siècle du cinéma, on était des délégués généraux et on ne lui avait pas expliqué son rôle, quoi, vous voyez. On ne lui avait pas dit, Michel, voilà à quoi vous allez servir pour nous. On avait des rendez-vous avec le maire de Paris, le maire de Toulouse, le maire de Lyon pour organiser le centenaire du cinéma. Et j'ai compris un truc fondamental sur l'acteur, le grand acteur qui était Piccoli, c'est que quand il ne sait pas son rôle, il est comme un enfant, il est perdu dans la forêt. Et là, il éclate. La colère monte en lui. Et avec la voix qu'il a, qui est une voix sublime, profonde, caverneuse, on a subi cette colère pendant 5 ou 6 minutes. Et puis, il s'est calmé comme un enfant. Et puis, tout était oublié. Et on lui a expliqué son rôle. Vous voyez, et je me suis dit, c'est ça un acteur. Il m'a fait comprendre. Piccoli, j'ai eu la chance de le côtoyer. Il m'a fait comprendre ce que c'était qu'un acteur. L'acteur a besoin de connaître son rôle pour pouvoir être libre dans son rôle. Mais s'il ne le connaît pas, il est perdu. Vous voyez, et c'est là que le côté enfantin de Piccoli m'a toujours séduit, plu. Il était comme un enfant. On a une certaine différence d'âge, pas si grande d'ailleurs. Mais enfin, quand je le fréquentais, quand on se voyait, quand on dînait ensemble avec sa merveilleuse femme, Ludivine, je voyais qu'il était, on était de plein pied avec lui parce qu'il avait une capacité d'enfance sublime, quoi. Tout était possible, vous voyez. C'était pas l'homme, l'acteur professionnel, aguerri, sûr de lui, sûr de son talent. Pas du tout. C'était un homme qui se mettait à la disponibilité de tout le monde par générosité, par enfance, par goût de, par curiosité, vous voyez. Donc, il était comme un buvard avec Claude Sautet. C'était son double, absolument. Et l'un était le double de l'autre et vice versa, si vous voulez. C'était aussi des hommes de la même génération qui pouvaient exprimer sublimement les failles d'un personnage masculin fort comme celui de Max et les Ferrailleurs, comme celui des Choses de la vie, comme celui de Mado et autres. C'est-à-dire un homme en pleine maturité, mais aussi avec une faille, une fêlure profonde, un mensonge intrinsèque à l'identité même du personnage qu'il jouait.
Alors, on dit par générosité, car c'était un homme généreux, mais parfois il avait l'amour assez vache. Anne-Sophie Mercier, dans votre biographie, vous citez une anecdote extraordinaire. On est en 94, il est avec des journalistes de Positif qui l'interrogent sur des acteurs, et entre autres Robert De Niro, qui passe 6 mois dans une fonderie avant d'incarner un sidérurgiste. Bon, évidemment, allusion au voyage au bout de l'enfer. Et lui répond, il a cette réponse incroyable, je pense que ce sont des perfectionniste sans imagination.
Oui, c'est amusant comme tout. Il fait allusion à son premier film qu'il a tourné avec Louis Daquin, qui s'appelle Le Point du Jour, et qui retrace la vie de mineur de fond dans le Pas-de-Calais. Et pour une fois, il ne se montre pas si lucide que ça, parce qu'il dit, alors lui, il incarne dans ce film un mineur de fond, et il dit, je crois que j'étais assez formidable, je me suis revu, je me suis trouvé assez convaincant. Et je dis pas, alors on lui pose la question, il dit, mais comment vous avez travaillé? Est-ce que vous êtes frotté à la vie des mineurs de fond pour rendre cet univers? Il dit pas du tout, j'en ai pas eu besoin, j'ai été très bon. Mais quand je l'ai revu, je trouve qu'il est parfois très convaincant en mineur de fond et qu'il fait parfois, quand il met un col roulé noir, un peu étudiant germano-pratin. Donc c'est marrant cette vacherie qui balance à De Niro, parce que pour une fois, je ne le trouve pas si juste que ça dans son analyse, à part le fait qu'il est assez amusant.
Serge Toubiana, le mot imagination, imaginaire, s'imaginer un personnage, ça revient constamment dans la bouche de Michel Piccoli.
Bien sûr, mais c'est l'anti-acteur studio, hein, Piccoli. C'est-à-dire qu'il ne croit pas du tout à la théorie de l'acteur américain, enfin à la théorie américaine de l'acteur studio. C'est-à-dire que pour lui, il se met dans le personnage, imiter, aller voir le réel et tout, il y croit, il l'a jamais fait. Vous voyez, c'est pas du tout ça. Lui, d'abord, il suit avec une grande fidélité, une grande humilité les indications de son metteur en scène, son réalisateur, et on peut le dire aussi au théâtre d'ailleurs. Après, il apporte sa contribution, son enveloppe, sa voix, son corps, son aura d'acteur. Il y a une aura chez Piccoli. Vous voyez bien que vous pouvez pas faire jouer à Piccoli le rôle de Sammy Frey chez Sauté. Voilà, il y a une présence Piccoli, si vous voulez, qui s'impose et qui l'impose sans même s'en rendre compte. Donc voilà. Et c'est là qu'il trouve des intonations, il trouve la gestuelle, il est très précis en général. Et je vous dis, il est guidé par cette voix qui est absolument unique dans le cinéma français. Voilà. Donc c'est vrai que, regardez, les derniers films de Piccoli, que ce soit avec Oliveira, que ce soit avec Moretti, il ne joue pas, il est, vous voyez, il n'y a pas besoin de jouer, il est là, il porte le costume, on lui met une soutane ou un chapeau, peu importe, on lui met des souliers, il a mal aux pieds, il marche rue de Rennes et il est sublime, vous voyez, il n'y a pas besoin, quoi. Vous savez, Piccoli, il prenait le métro à Paris, hein. Il n'avait pas d'agent, il était l'homme le plus accessible de... Les gens lui posaient des questions et répondaient. Il n'était pas à part de la société. Il était, j'allais dire, normalement, voilà, son métier, acteur. Mais il n'en faisait pas un fromage, vous voyez.
Un farouche cochon sanglier et à toutes les marinades les plus subtiles.
Ça, c'est de la bonne viande.
Deux superbes chevreuils à l'œil doux, dont la chair a tous les parfums de la forêt des goûts.
C'est du congé, ça?
Et alors? Quand il faut, je suis pour le progrès.
Ça, c'est de la bonne viande.
Dix douzaines de pintades mi-sauvages, nourries au grain et au genièvre.
Marcello, les amis te réclament.
Il est beau ton pull.
Oh. Ah, cette voiture, hein? Très très belle. Eh bien, tu sais que Bugatti, il se faisait faire des chaussures spéciales comme un gant avec le pouce indépendant.
C'est vrai?
Oui.
Pour conduire?
Non, dans la vie. Il était un artiste.
Regarde quelle splendeur cet arrivage, non?
Trois douzaines d'innocents coquelets des Ardennes.
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Un douzaine de poulets de Brest.
Ça sent, c'est...
De
la
ça, c'est de la bonne viande. Quatre amis s'enferment dans l'intention de se suicider en mangeant, hein, de se faire littéralement péter la panse. Les voix de Ugo Toniazzi, Philippe Noiret, Marcello Mastroianni et bien sûr Michel Piccoli en gants orange et pull à col roulé rose. Hein, c'est la grande bouffe de Marco Ferreri en 73. Alors, il est un peu la touche aristocratique du quatuor. Serge Toubiana, on pourrait faire miroiter à l'infini ces deux doubles de cinéma, hein. Sauté qui fait ressortir son côté grand bourgeois, froid, et puis Ferreri qui lui va mettre en lumière le côté totalement provocateur de Piccoli. Ils vont faire 7 films ensemble.
Oui, c'est le côté la bouffonnerie, quoi. Moi j'adore le cinéma de Ferreri, vraiment c'est un très grand cinéaste pour moi. Et la grande bouffe, c'est une espèce d'apothéose de la bouffonnerie, quoi. C'est-à-dire que le monde est une bouffonnerie, le monde est un spectacle, on peut détruire, on peut tout détruire, on peut se marrer, on peut aller jusqu'au bout d'une logique suicidaire, mais avec élégance et presque joie et fantaisie. Et c'est le cas de la grande bouffe. Et ce qui est magnifique dans le film, c'est le quatuor d'acteurs, plus Andrea Ferréol, hein, qui est la femme, le corps féminin, une sorte de corps à la fois renoirien ou à la Botero, avec laquelle ils s'amusent, ils sont des camarades, vous voyez, ils jouent avec elle parce qu'elle incarne la féminité, la rondeur, etc. Mais ce qui est formidable dans le film, c'est l'alliance des quatre. Ils sont à égalité, ils s'amusent, ils s'appellent par leur prénom, et puis ils sont dans une espèce de course à la mort et ils y vont gaiement, joyeusement, de façon comme des clowns, des bouffons. Donc c'est un film qui a fait scandale, un des plus grands scandales du Festival de Cannes et sans doute du cinéma depuis l'après-guerre. Mais c'est un film qu'on revoit, bon, que j'adore revoir, parce que c'est un film d'une profondeur et d'une vision magnifique sur ce que c'est que la société, la consommation, la relation avec la mort, avec la métaphysique, avec la foi, avec la croyance, etc. Et ils sont là, ils jouent naturellement, ils sont... Et ce qui est magnifique, c'est que les personnages disparaissent les uns après les autres, mais Ferreri les garde dans le plan, quoi. Il les garde dans le frigidaire, dans le congélateur. C'est sublime. Et puis Piccoli est magnifique par sa voix, par son pull acrylique rose, par ça. Et puis il meurt de, il implose, quoi. Il implose en faisant des bruits qu'on n'a pas envie qu'on n'a pas l'habitude d'entendre au cinéma. C'est ce qui a fait que les gens à Cannes ont houspillé les acteurs du film, vous voyez.
Justement, Anne-Sophie Mercier, dans votre biographie de Piccoli, vous racontez la projection, la sortie de la projection de La Grande Bouffe sous les huées des spectateurs. Donc, il est avec ses deux amis, Marco Ferreri et Mastroianni. Et lui, en fait, il sourit. Et vous écrivez, on a presque l'impression qu'il s'amuse. Que tout ce scandale, en fait, le réjouit totalement.
Il jubile, il adore ça, il adore la provocation, il a toujours adoré ça, il adore la confrontation avec le public, il adore discuter, mais il adore aussi des moments un peu durs, un peu rudes. C'est pas son seul scandale au Festival de Cannes et c'est pas sa seule incompréhension au cinéma. Donc ce moment d'incompréhension-là, il l'aime, il l'assume, il jubile. Il faut regarder la conférence de presse qui a été organisée à Cannes avec Marco Ferreri, Mastroianni et Piccoli. Ça hurle dans la salle, ça insulte, ça se lève et eux, ils s'amusent comme des petits fous.
Alors, on aimerait bien avoir le making-of aussi de la Grande Bouffe. Mais vous mettez en lumière, en fait, dans votre livre, son côté un peu, alors on disait provocateur, mais aussi gosse tapageur. C'est-à-dire que sur le tournage de Mado, il envoie des petits Suisses à la tête de Nathalie Baye. Dans La Mort...
C'est dans Une étrange affaire, les petits Suisses avec Nathalie Baye.
Et dans La Mort en ce jardin, Simone Signoret a parlé de bataille à coups de seau d'eau. Avec Piccoli et se renverser des bols de mayonnaise sur la tête.
Oui, c'est un côté que Serge Toubiana évoquait tout à l'heure dans ses colères. C'est la même chose. C'est un goût du burlesque et un goût de l'énorme. Un goût de la rigolade, du chahut. En effet, sur le tournage Une étrange affaire, qui est un film, qui est un chef-d'œuvre absolu, dans la journée, c'est un homme qui tourne un chef d'entreprise dominateur et d'une perversité rare. Et le soir, avec Nathalie Baye, on se barbouille des tissus sur la tête et on rit et on hurle de rire. Et plus c'est énorme, et plus il aime ça.
Et en fait, effectivement, il adorait, à côté de ses grands rôles de bourgeois ou de grands fofsadiens, il adorait le pastiche, par exemple dans Le Sucre ou dans Thème Rock. Avec les films de Ferreri, Serge Toubiana, on a l'impression qu'il se passe, il se joue quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'il a une recherche de l'intimité avec le réalisateur, il veut savoir pourquoi le réalisateur fait ce film, ce que ça révèle de lui, et on a presque l'impression qu'il prend le personnage comme une émanation de la psyché du cinéaste. Et surtout
absolument.
Avec Ferreri.
Oui, avec Ferreri, parce que Ferreri, avec Dininger est mort, qui est un film absolument fondamental dans la carrière de Ferreri, dans l'œuvre de Ferreri et dans celle de Piccoli. Parce que là, il n'y a rien. Il y a un homme, Piccoli, qui joue avec un revolver pendant une heure et demie. Vous voyez, il joue avec un revolver. Il le démonte, il le remonte, etc. Un revolver. C'est-à-dire que c'est à la fois régressif, ça explore des zones de, comment dire, de la psyché, comme vous dites. Ça va vers la recherche de la liberté, ça va vers la mort, parce qu'on sait bien qu'avec ce revolver, il va bien finir par passer à l'acte, si vous voulez. Il y a quelque chose de l'exploration de ce que, profondément, de ce que l'être humain peut vivre, si vous voulez. Et Piccoli, il a adoré travailler avec Ferreri. Ils ont fait, je sais pas, 6 ou 7 films ensemble, y compris des petits rôles, parfois. Mais il a adoré la folie de Ferreri, la folie incongrue, exploratrice, anti-bourgeoise. Et Piccoli s'est prêté à ça avec délectation, en même temps qu'il travaillait avec Sauté. C'est concomitant. C'est vrai. Il avait à la fois Sauté qui le rangeait quelque part dans l'imaginaire du grand bourgeois souverain et pervers, et de l'autre, il avait le retour à l'enfance, au corps nu. À l'expression animale la plus bestiale et la plus grandiose, vous voyez. Donc Piccoli, il est au cœur des deux et il joue avec ça, il adore ça.
Alors l'enfance, le corps nu, vous le disiez Serge Toubiana, le costume, le costume 3 pièces du grand bourgeois et puis la soutane.
Ecco, cambio di programma, invece partiamo proprio da quello che è successo negli ultimi giorni.
Non ce la faccio più ad andare avanti.
E ha già provato altre volte questa sensazione?
Non lo so. No, non mi sembra, però non lo so.
Alors, est-ce qu'on peut faire la psychanalyse d'un pape, le face-à-face entre Nanni Moretti et Michel Piccoli? C'est Habemus Papam, bien sûr, en 2011, un film de joué et réalisé par Nanni Moretti. Alors, l'histoire, comment la raconter? Un pape névrosé, miné par l'angoisse et la responsabilité de sa charge, va finalement renoncer et expliquer aux croyants médusés: je ne suis pas le chef dont vous avez besoin. C'est le dernier grand rôle de Michel Piccoli en 2011. Et alors, on raconte, Serge Toubiana, que Nanni Moretti lui avait fait faire un essai, qu'il était arrivé dans les bureaux de Jean Labbadie, donc le distributeur français du film, une soutane sur les bras. Et lui, Piccoli, alors il avait 80 ans passés à l'époque, on pourrait imaginer, lui qui a tourné avec les plus grands va très très mal le prendre. Et en fait, non. On a l'impression qu'il était, même à cet âge avancé, où il était déjà un peu malade, il va être partant pour toutes les aventures, jouer dans une langue étrangère, partir avec un cinéaste qu'il ne connaît pas. Enfin, il est partant pour tout. Hein. Il se définit d'ailleurs comme un éternel étudiant.
Bah, tel que vous la racontez, la scène elle a dû exister, et je l'imagine tout à fait. C'est-à-dire Moretti venant à Paris avec la soutane, ne parlant pas français, je connais bien Nanni Moretti, ne parle qu'italien, et je vois très bien Piccoli jouant le jeu, mettant la soutane, se faisant boutonner les boutons par le metteur en scène. Voilà, l'habit fait le moine. Donc, si vous voulez, Piccoli, il n'y a pas besoin d'explication, il n'y a pas besoin de jouer l'acteur studio. Est-ce que je suis capable d'être un pape? Pas du tout. Il met la soutane, il met la petite, je sais pas comment on appelle ça, la petite calotte sur le crâne. En plus, le crâne de Piccoli était parfait pour mettre cette... Voilà, et il est Habemus Papam. Il n'y a pas l'ombre d'un doute, si vous voulez. Donc, si vous voulez, l'habit vraiment fait le rôle, le personnage. Et comme Piccoli savait que Moretti est un très grand cinéaste, la langue italienne, ça ne lui est pas indifférent. Piccoli est quand même d'origine italienne, même s'il a joué dans des films avec Bellocchio, pour lequel le saut dans le vide, il a eu le prix d'interprétation à Cannes avec sa partenaire Anouk Aimée. Donc voilà, l'Italie, ça lui dit beaucoup. Et pourquoi pas s'amuser à être un pape, et surtout un pape qui n'y croit pas lui-même. Donc vous voyez, toute la proposition l'embarque et l'emballe. Vous voyez. Et puis, quand il marche dans les rues de Rome et qu'il se perd, c'est Piccoli lui-même qui, effectivement, commençait dans la vie à se perdre un peu. Vous voyez. Donc il y a quelque chose... Moretti a saisi l'acteur, le grand acteur, l'immense acteur, dans sa vérité du moment, à la fois dans une situation un peu pastiche, de mettre de revêtir l'habit du pape, et en même temps de refuser ce statut parce que la vie, la liberté, c'est mieux quand même, c'est mieux que la fonction, voilà. Et ça, c'est tout Piccoli, le goût de la liberté, le côté rebelle, le côté engagé à gauche, le côté se foutant des institutions. C'est tout Michel Piccoli, ça.
Anne-Sophie Mercier, dans votre livre, vous parlez énormément aussi de l'engagement politique de Michel Piccoli, puisqu'il il va se battre pour l'accès au droit à l'avortement, pour les femmes, pour la libération de prisonniers est-allemands. Il est très impliqué, l'un des rares acteurs très impliqués dans l'affaire Langlois, hein, la Cinémathèque française. Ouais. Il va être contre la guerre du Vietnam, contre la loi martiale en Pologne. Enfin, je vais vous laisser raconter un peu le Piccoli politique. Mais est-ce que finalement, ce personnage du pape Melville qui renonce à sa charge, d'ailleurs un petit peu comme le Bartleby de Melville, hein, ce personnage qui dit « je préférerais ne pas », voilà, qui décide de lâcher, est-ce que c'est pas, justement, ça raconte pas un peu ce personnage, le rapport à la politique de Piccoli, c'est-à-dire s'engager, oui, mais sans jamais, oui, être encarté?
Oui, je crois qu'il y a un mot fondamental quand on parle de Michel Piccoli, c'est celui de liberté. Et Michel Piccoli s'est engagé avec beaucoup de passion aux côtés du Parti communiste, aux côtés de la Ligue communiste révolutionnaire, aux côtés des socialistes, évidemment, à l'époque de Mitterrand et avant. Mais c'est quelqu'un qui n'a jamais voulu être encarté, c'est quelqu'un à qui on ne devait jamais dire ce qu'il devait penser et ce qu'il devait faire. Et en effet, je crois que dans Habemus Papam, c'est exactement cette quête qu'on retrouve. Ne m'enfermez pas, ne me dites pas quoi faire, ne soyez pas suspendu à mes paroles, je ne suis pas cet homme-là. Et c'est un militant de toujours, un militant passionné, mais c'est quelqu'un qui n'a jamais voulu être qu'un militant et certainement pas un prescripteur ou un leader.
Et dans une interview, en fait accordée donc au moment de la sortie du film à Michel Simon, il dit cette chose extraordinaire à Michel Simon: il y a des fins de vie avant la mort. On est en 2011, on sent qu'il est très très fatigué. Et Serge Toubiana, c'est un moment extraordinaire.
Ah oui, oui, parce que là, vous voyez, quand je lui ai proposé une rétrospective à la Cinémathèque, j'ai dû insister longtemps. Hein. Il ne voulait pas, il m'a dit, si tu me fais une rétrospective à la Cinémathèque, ça sent le sapin, ça veut dire que je vais mourir. Et donc, il m'a dit non, non, non et non. Et puis un jour, avec Costa Gavras, le président de la Cinémathèque, on l'a coincé dans mon bureau. Et je lui ai dit une phrase, je ne sais plus ce que je lui ai dit, qu'il l'a retournée. Je ne sais pas pourquoi, j'ai trouvé le bon argument, j'avoue que j'ai oublié. Et il m'a dit oui, d'accord, on le fait comme ça. Et il est venu dans mon bureau, on a parlé, et là il était magnifique à la fois de générosité, d'enfance, de questionnement, et on a fait ça très, très légèrement, vous voyez. On a fait ça parce que la profonde inquiétude qu'il avait, c'est de ne plus jouer au théâtre, parce qu'il ne se rappelait plus des textes, et que les assurances au cinéma ne pouvaient plus l'assurer. Ça, pour lui, c'était la fin la pire. La fin la pire pour un acteur, c'est de ne plus pouvoir jouer. C'est d'être privé de cette liberté dont parle Anne-Sophie, de jouer les textes des autres, les mots des autres, les rôles que les autres metteurs en scène, aussi bien au théâtre qu'au cinéma, lui proposaient. Et là, il était fini. Il se sentait inutile, vous voyez, inutile. Et pour un acteur comme Michel Piccoli, c'était une mort avant la mort, quoi. Et j'étais bouleversé de voir ça chez lui, sachant qu'il a continué de vivre, vous voyez, mais sans pouvoir exercer ce noble métier qu'il a servi si génialement, si généreusement, vous voyez.
C'est un beau mot de la fin. Je vous propose qu'on se quitte sur la BO des choses de la vie, des mots écrits par Jean-Loup Dabadie, qui nous a quittés ce dimanche. Voilà un extraordinaire enregistrement en studio entre Romy Schneider et Michel Piccoli.
Ce soir, nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre, le soleil.
Sophie Mercier, merci.
Merci à vous.
Donc votre biographie Piccoli derrière l'écran est parue aux éditions Alary. Et Serge Toubiana, merci.
Merci beaucoup.
Clap de fin sur tous les cinémas du monde. Au micro, Elisabeth Le Quéré, à la réalisation, Fanny Renard et Fabien Mugneret. Rendez-vous la semaine prochaine avec Sophie Torlotin qui vous a concocté une émission spéciale Louis de Funès, puisqu'il y a une floraison de livres et d'essais sur le génie comique, en attendant bien sûr la réouverture de la Cinémathèque française qui avait prévu de lui consacrer une exposition au mois de mars dernier. Et d'ici là, bonne semaine à tous. RFI.